Aujourd'hui, nous aurons comme thème le sacerdoce universel, qui est la quatrième partie dans la Rose de Luther. C'est quoi le sacerdoce universel? Pour faire simple, le sacerdoce universel veut dire tous les baptisés sont tous des prêtres. Voilà ce que ça veut dire. Tous baptisés sont tous des prêtres. C'est un des points qui a secoué l'Église catholique à l'époque du Moyen Âge, ce principe de la réforme sur le sacerdoce universel. Pourquoi ? Parce que la papauté et le pouvoir des évêques et des prêtres étaient remis en cause. Si on dit tous les baptisés sont des prêtres, alors est-ce qu'on a encore besoin des prêtres ? Est-ce qu'on a encore besoin des évêques ? Est-ce qu'on a encore besoin du pape ? Voyez-vous l'impact de la justification par la foi ? C'est grâce à ça pour nous, ou à cause de cela pour certaines personnes, que nous ne sommes plus obligés de passer devant les prêtres, par exemple, pour se confesser. C'est pour cela, dans l'Église protestante, il n'y a pas ce sacrement du confessionnat. Parce que chaque baptisé est prêtre, c'est-à-dire tu peux demander pardon directement comme les grands prêtres qu'on a lu tout à l'heure dans les textes, directement devant le Seigneur, grâce au sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. La grâce de Dieu ne dépend pas de l'ordination ou de la consécration du pasteur ou du prêtre. Alors le pasteur, moi y compris, il est juste là, non pas en tant que représentant de Dieu. Et ça, il faut l'enlever. Nous ne sommes pas le représentant de Dieu sur terre. C'est notre différence avec la théologie et la doctrine catholique. Mais le pasteur, il est là comme étant le représentant de toute la communauté. C'est tout à fait l'inverse. Et c'est là la doctrine protestante. Le pasteur est là pour représenter toute la communauté, pour faire un culte. Et c'était dans le but, dans le souci d'un ordre. Donc, normalement, vous tous, vous pouvez faire le culte. Vous tous, vous pouvez donner le sacrement du baptême, de la Sainte Cène, puisque vous êtes tous des prêtres. Tous les baptisés ont le droit d'administrer le sacrement de baptême et Sainte Cène. Mais, dans le souci de l'ordre, justement, c'est là que l'Église protestante a mis comme règlement intérieur, dans toutes les églises d'ailleurs, l'élection d'un pasteur que vous faites à chaque fois quand il y a un changement de pasteur. Pourquoi cette élection ? C'est parce que c'est lui qui va être le représentant de la communauté pour faire le service. Et c'est rien que cela. Et le jour quand le pasteur n'a plus cette charge, il redevient un laïc entre guillemets. Nous allons lire un texte dans 1 Pierre chapitre 2 verset 8 à 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 8 à 9. Il est dit: et ailleurs il est dit encore, c'est la pierre qui fait trébucher les hommes, le rocher qui les fait tomber. Ils ont trébuché parce qu'ils ont refusé de croire à la parole, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Amen. J'ai regardé les différentes versions de la Bible, mais je me suis penché vers la version de la Tombe, qui est plus appropriée selon moi, qui dit « Mais vous, vous êtes la race élue, et ensuite la communauté sacerdotale du roi, une communauté de prêtres. » Donc ici, c'est la communauté qui est prêtre, mais pas le pasteur, tout simplement. Une communauté de prêtres, une nation sainte, le peuple que Dieu a choisi. le peuple. Donc le texte biblique est très clair. Le sacerdoce appartient à toute l'Église, mais pas simplement à une seule partie ou à une classe d'élite, à tous les baptisés. Par conséquent, j'attire votre attention sur deux extrêmes qu'il faut combattre, deux problématiques. Il y a le cléricalisme, bien sûr, et l'anticléricalisme. Je ne vais pas donner des théories assez lourdes, mais on va plutôt aller dans le concret, dans des exemples. Je vais prendre d'abord le cléricalisme. J'ai entendu parler, par la bouche d'un collègue, un prêtre catholique, que ces temps-ci, selon lui, il y a un fort désir chez les nouveaux prêtres, la nouvelle génération de prêtres de notre époque, qui souhaiteraient revenir tout doucement à la belle époque avant Vatican II. Cette belle époque. À cette époque où les hommes d'Église étaient craints, respectés. Sa parole était considérée comme étant la parole de Dieu, parce qu'ils étaient le représentant de Dieu et qu'on ne pouvait pas le critiquer ou refuser son enseignement. Nous n'allons pas nous enfermer dans le passé, mais aussi de nos jours, aujourd'hui, il existe dans le milieu protestant une sorte d'abus de position, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce sont les plus redoutables même, car ils ont le contrôle sur leurs paroissiens, sur le plan psychologique. Il y a des pasteurs ou il y a des prédicateurs ou il y a des personnes qui sont responsables d'une communauté qui ont la maîtrise totale psychologiquement sur leurs paroissiens, sur le plan émotionnel et même dans leurs finances. C'est le cas des gourous dans les sectes. Et c'est encore très dangereux. Le cléricalisme est très dangereux, et je reprends ici les paroles du pape même, du pape François aujourd'hui, qui disait « Le cléricalisme est une chose très mauvaise, et la victime c'est le peuple pauvre et humble qui attend le Seigneur. Le Père a toujours recherché à se rapprocher de nous. » Voilà ces phrases. Et en tenant compte de cette parole du pape, on peut comprendre entre les lignes qu'il y a de la distance entre le clergé et les paroissiens. Voilà pour le cléricalisme. Toutefois, le contraire aussi est plus dangereux, l'anticléricalisme. Cette position est dangereuse parce que c'est un peu le fruit, un peu le fruit de la révolte qui s'est passée dans l'Église protestante lors de la Réforme, de ce qu'on appelle les iconoclastes, au temps de la Réforme, qui ont mal compris la Réforme de Luther et le principe du sacerdoce universel. Et du jour au lendemain, ils ont décidé de tout détruire. Un des adeptes de Luther, Karlstadt, qui était le plus farouche, ils ont tout détruit. Les églises catholiques à l'époque, sans faire de distinction. C'était devenu une chasse aux sorcières contre l'Église catholique. Ils ont brûlé des églises, ils ont détruit des monuments, et même allant jusqu'à tuer des prêtres. Ça, c'est la zone sombre de la Réforme. Ils étaient appelés les réformés radicaux. Et cet anticléricalisme a dépassé les murs de l'Église, qui pourtant était un mouvement à l'intérieur de l'Église. Et ce mouvement est sorti de l'Église. Et aujourd'hui, il se déguise et se prononce laïque. Et à vrai dire, ce sont des anti-Églises. Et ils ont profité de ce mouvement pour enfoncer encore un peu plus le clou, pour convaincre la masse populaire, que l'Église est encore le dernier bastion de l'obscurantisme. L'Église, les pasteurs, les prédicateurs sont venus, selon eux, ils sont vus et considérés comme des personnes qui endoctrinent la masse populaire exploitant leur ignorance en matière de foi. Et ils font croire aux gens qui sont là pour les protéger et ouvrir leurs yeux contre ces profiteurs. Et en plus, ce discours fonctionne très bien. Pourquoi ? À cause des attitudes des gourous qui trompent les brebis de Dieu. La grande question qui se pose alors à l'issue de tout cela, c'est comment trouver le juste milieu. De l'un, le cléricalisme, de l'autre côté, l'anticléricalisme. Et ce n'est pas du tout facile de trouver le chemin. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de menu magique. Et en plus, l'atmosphère qui règne actuellement dans les églises est encore pire parce que aujourd'hui, la question qui se pose en nous, qu'est-ce que telle paroisse et tel pasteur a à m'offrir? Donc, nous sommes là au culte comme étant des consommateurs. On devient des consommateurs, des spectateurs, mais pas des acteurs. On vient au culte pour consommer et ça s'arrête là. Au départ, c'est vrai, on a besoin de se nourrir spirituellement. Et cela doit se faire en permanence. Ça, même moi aussi, j'en ai besoin. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a une croissance spirituelle qu'il faut avancer. Ne pas arrêter dans la position initiale. Il faut aller vers l'édification. L'édification pour quel objectif ? C'est qu'à notre tour aussi, nous devenions des serviteurs qui servent les autres, qui vont aller vers les autres par la suite. Normalement, si après des années que nous sommes membres d'une communauté et que nous restions uniquement qu'au stade de la consommation de la parole de Dieu, nous n'avançons pas dans le sacerdoce. Il est vrai que c'est une place confortable d'être un consommateur de la parole de Dieu, de rester un simple paroissien, c'est plus simple. Mais n'oublions pas qu'autour de nous, il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là, ou cette grâce de bénéficier ce que tu obtiens aujourd'hui. Ne nous mettons pas à la place de Caïn, qui a osé dire à l'Éternel, « Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est trop facile de le dire. Chacun est responsable de sa vie, non ? Et lorsque Dieu lui a posé cette question-là, « Où est ton frère ?» À toi aussi qui viens au culte à chaque fois, c'est la question que Jésus te pose avant que tu quittes ce lieu de culte. « Où est ton frère ?» Ne va pas répondre comme Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Je crois que tout le monde veut rester bien tranquille dans son coin et ne veut pas se chercher des problèmes, des tracas pour le bien des autres parce que quand il faut faire ça, on ne trouve que des problèmes. Et c'est très humain comme réaction. C'est normal. Mais quand Dieu me pose cette question-là, « Jean-Luc, où est ton frère ?» Cela résonne dans ma tête et dans mon cœur. Que dois-je faire, Seigneur ? Puisqu'au moment où Dieu a posé cette question-là à Caïn, rappelez-vous, il savait déjà où était son frère. Il était décédé. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, il y a une question de vie ou de mort. La réponse à cette question, où est ton frère ? C'est une question de vie ou de mort, chers frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas juste un choix ou une option. La vie de ton frère en dépend. Et à ce propos, il y a un verset qui fait beaucoup réfléchir dans Ézéchiel chapitre 33, versets 8 à 9, qui dit « Si je dis aux méchants, méchant tu mourras certainement, mais que toi tu ne parles pas pour avertir le méchant de quitter sa conduite, lui le méchant mourra de son péché, mais c'est à toi que je demanderai des comptes de son sang. Par contre, si tu avertis le méchant pour qu'il se détourne de sa conduite, et qu'il ne veuille pas s'en détourner, il mourra de son péché et toi, tu sauveras ta vie. » Dans la vie de tous les jours, nous connaissons tous que devant la loi, une non-assistance de personnes en danger est punissable par la loi. Parce que la vie de l'autre a aussi une importance comme la mienne. Il est vrai que nous ne sommes pas tous des médecins, peut-être, mais on nous apprend les premiers gestes pour sauver des personnes en danger dans la vie de tous les jours. Et je prends cet exemple-là pour nous dire que c'est vrai que nous ne serons pas tous des pasteurs, des diacres, des évangélistes, des missionnaires, des moniteurs, des monitrices. Mais par contre, nous sommes tous appelés à être des porteurs de messages, de la bonne nouvelle, quelle que soit notre place, notre origine, notre niveau intellectuel, notre classe sociale. Peu importe, tout le monde a sa place dans le royaume de Dieu. Je réitère encore et encore, tout baptisé sont des prêtres parce que nous avons revêtu le Christ, le grand prêtre. Et pour terminer, je vais vous raconter une histoire, un témoignage qui a bouleversé la vie de cette personne, une dame qui ne pouvait plus aller même au temple parce qu'elle était fort âgée. Et un jour, quelqu'un a fait un faux numéro. Et cette personne est tombée sur elle, qui a dit « Écoutez, je vais me suicider dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez à me dire avant que je termine ma vie ?» Et cette dame-là était chrétienne. Et c'est là qu'elle a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et à la fin, le monsieur a dit « Heureusement que je suis tombé sur vous. » J'ai failli mourir pour rien. Et à partir de ce jour, cette dame-là a pu créer un ministère d'évangélisation en recevant des appels téléphoniques de toutes les personnes qui étaient au bord de la dépression. Et cette dame-là a ouvert un ministère extraordinaire aujourd'hui. Vous voyez, toute personne a sa place dans le royaume de Dieu. Même ceux qui ne peuvent plus aller au temple. Dieu a besoin de vous. Car tous vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, dit Paul, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme. Car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Amen.